Le site sudtourisme.nc fait peau neuve. Il est désormais possible de réserver et payer sur une seule et même plateforme internet l'ensemble de son voyage en province sud. Comment poursuivre la réflexion sur la construction en Nouvelle-Calédonie? C'était la question posée lors de cette deuxième édition de la Biennale de la Construction, organisée par le gouvernement. Une journée de réflexion qui sera suivie de différentes actions et mises en œuvre. La sécheresse sur le territoire, véritable fléau pour les pompiers. Tous les jours, les équipes sont mobilisées sur des incendies. Nous en avons parlé ce midi dans notre magazine Citoyen, extrait à suivre dans ce journal. Un rêve de gosse réalisé, 29 élèves de Rivière-Salée ont pu s'envoler dans un avion CASA et découvrir la Calédonie vue du ciel. Une opération rendue possible grâce au Rotary Club et la base aérienne de Tontouta. Le lycée du Kikewe de Dumbéa prend des couleurs. Ce matin, une fresque a été réalisée sur les marches principales de l'établissement par une artiste calédonienne avec l'aide des élèves du lycée. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Je vous le disais en titre, Sud Tourisme lance sa Marketplace, un vaste site de réservation en ligne pour les touristes calédoniens mais aussi internationaux. Il s'agit d'une grande plateforme sur laquelle vous allez retrouver les prestataires touristiques de la province et surtout vous allez pouvoir réserver en ligne l'intégralité de votre séjour. Un site qui a été construit à la demande des prestataires touristiques. Pour le moment, 70 sont à retrouver sur le site, mais Sud Tourisme travaille à augmenter le nombre d'offres. Alexandra Gambino est responsable de la commercialisation de Sud Tourisme.
Cet outil est en fait un site de vente en ligne qui permet de réserver tout son séjour dans un même panier. Donc vous pouvez réserver en un clic votre vol, votre hébergement, vos activités, votre transport, vos navettes et tout un tas d'autres choses. C'est un outil qui est très innovant et structurant pour le secteur puisqu'il permet d'intégrer à la fois les petits et les gros prestataires, j'ai envie de dire, qu'ils soient digitalisés ou non, l'outil permet vraiment de créer une synergie entre tout l'écosystème. La philosophie, justement, c'est d'en faire un outil vraiment porteur pour le secteur et justement que ça soit un outil qui fasse travailler les uns avec les autres, que la visibilité des uns bénéficie aux autres, etc. Donc un outil qui soit vertueux et qui contribue en fait du coup aux revenus de nos professionnels et aux retombées économiques pour le secteur.
La province sud a décidé de lancer ce site aujourd'hui, notamment pour permettre aux prestataires de se familiariser avec l'outil au moment des grandes vacances, afin d'être prêt quand les touristes internationaux reviendront. Un secteur d'avenir pour la relance économique, selon Sonia Baquès, la présidente de la province sud.
Ça fait aussi partie des réflexions qu'on a sur le fait qu'on ne doit pas forcément tout refaire pareil qu'avant. On sait qu'on a une économie qui est très liée au nickel et on est très heureux tous que l'usine du Sud reprenne et qu'on ait une chance de reprise. Mais on a intérêt à développer d'autres secteurs et je suis convaincue que le tourisme en fait partie. Même si on a des difficultés structurelles liées au prix des billets d'avion, liées au coût du travail, donc on n'est pas concurrentiel avec un certain nombre de destinations de la zone. Mais par contre, on a un tourisme particulier lié au développement durable, lié au fait qu'on a le plus beau lagon du monde sans être chauvin, qu'on a des endroits exceptionnels en termes d'activités de pleine nature, en particulier sur la zone Farino, Saramea, Moindou, etc. On a des activités exceptionnelles qui sont très demandées et qu'on peut développer. Et c'est vrai que ce type d'outil-là, ça permet aussi de faire connaître des choses parce qu'on n'a pas forcément connaissance de tout ce qui existe en province sud.
Ce site devrait continuer d'évoluer avec de nouvelles fonctionnalités annoncées pour l'année prochaine. Le travail autour de la construction et de ses pratiques se poursuit. C'était aujourd'hui la deuxième Biennale de la Construction, organisée par le gouvernement au Théâtre de Lille, Jean-François Baudin.
Et après un premier bilan du travail de réflexion effectué depuis les dernières assises en 2022, des tables rondes thématiques ont réuni aujourd'hui jusqu'à 160 personnes. Un travail qui s'inscrit dans le temps et la continuité pour faire évoluer la construction et fédérer les nombreux acteurs du secteur. Jamil Abdelaziz est le directeur de projet en charge du référentiel de la construction en Nouvelle-Calédonie et organisateur de ces assises.
Le thème fédérateur, en fait, c'est reconstruire autrement. Plutôt même construire autrement, parce qu'on a effectivement les 13 mai, mais on avait déjà anticipé et prévu de travailler avec l'ensemble des acteurs de la construction sur construire autrement, ça veut dire quoi ? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes dynamiques qui se mettent en place. La première, c'est la performance. Donc performance énergétique, performance environnementale. Et on a vu au fil des tables rondes que ça sous-entend énormément de projets sur lesquels les Calédoniens sont prêts. On a à la fois les outils, on a à la fois les compétences et on a les hommes pour les porter. Et le second, c'est mettre de l'humain dans la construction, c'est-à-dire être extrêmement vigilant sur l'adéquation entre l'ouvrage que l'on construit et les attentes des habitants qui sont à l'intérieur. Et on sait qu'on a beaucoup d'attentes et beaucoup de progrès à faire dans cette dimension-là également.
Cette journée a permis de définir des lignes directrices qui doivent maintenant se décliner en mode projet. Cela va passer par la mise en place d'un atelier d'intelligence collective pour concrétiser ces projets.
Sur la partie de la performance, on va travailler sur la performance environnementale. Donc on a vu qu'il y a énormément d'acteurs qui se positionnent sur le réemploi, la réutilisation, le recyclage des matériaux de déconstruction, en lien ou pas avec les événements du 13 mai. Mais on a aussi des projets sur l'utilisation de matériaux bio et géosourcés. Par exemple, on peut parler du bambou, du chanvre, on peut parler de la brique de terre. Énormément de sujets sur lesquels on peut travailler en Nouvelle-Calédonie, en lien avec les territoires ultramarins et avec les territoires du Pacifique. Parce que ces questions-là sont portées un peu partout de façon internationale.
Cette feuille de route va donc être mise en œuvre pour les deux ans à venir jusqu'à l'organisation de la Biennale de la Construction 2026 qui permettra de mesurer les progrès ou les avancées sur ces différents projets.
Le député Nicolas Metzdorf va partir pour Paris dans le cadre de la défense des amendements sur la Nouvelle-Calédonie dans le projet de loi de finances 2025. Et Elisabeth Noir, avant son départ, il était notre invité du matin à 7h30.
L'occasion d'un tour d'horizon politique après la visite des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et la réunion des congrès indépendantistes. Le député de la première circonscription n'est pas très enthousiaste sur la visite de Gérard Larcher et de Yael Braun-Pivet. Ils reviennent notamment sur l'expression de souveraineté partagée utilisée par le président du Sénat. Une expression qu'elle trouve ambiguë. La souveraineté partagée, ça veut tout dire et rien dire, déclare-t-il. Et il estime que cela peut être compris comme une indépendance association. Et pour lui, l'indépendance association, c'est un déni démocratique et moral. C'est une faute politique et économique. Et de surcroît, explique-t-il, l'indépendance association ne réglerait rien.
On croit que parce qu'il y a des loyalistes qui veulent la France et des indépendantistes qui veulent l'indépendance, il suffit de trouver le truc au milieu pour que tout le monde soit content. Mais est-ce que l'indépendance association va régler le racisme? Est-ce que l'indépendance association va régler le problème des revendications foncières? Est-ce que l'indépendance association va régler les problèmes de délinquance? Est-ce que l'indépendance association va régler les problèmes d'intégration de la population kanak dans le modèle capitaliste et économique? Non. L'indépendance association, c'est une vue de l'esprit des énarques parisiens qui veulent nous faire croire que c'est la solution d'entre deux. Mais ça, on l'a déjà essayé. C'est l'accord de Nouméa. On était parti de Matignon et des provinces pour dire on va faire un truc entre deux, une très large autonomie, l'accord de Nouméa. Comme ça, ça va plaire aux loyalistes et aux indépendantistes. On a vu le résultat. Donc l'indépendance association, c'est niet.
Concernant la reprise des discussions sur l'avenir, Nicolas Metzdorf estime que l'initiative doit venir des Calédoniens qui doivent commencer les discussions entre eux sans attendre un calendrier de l'État. Et s'il se réjouit de l'attitude du Palika et de l'UPM qui ont pris leur distance envers le FLNKS, il estime que la CCAT n'a pas sa place autour de la table. Nicolas Metzdorf, qui souhaite par ailleurs un front uni des partisans de la France, il déclare qu'il faut refaire le RPCR et défendre un projet commun qui revienne à l'esprit des accords de Matignon.
Une interview de Nicolas Metzdorf à retrouver en podcast audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Également, le 106e congrès de l'Association des maires de France est réuni depuis hier au Palais des congrès d'Issy-les-Moulineaux et il a débuté par la traditionnelle journée consacrée aux Outre-mer. La Nouvelle-Calédonie est représentée à ce salon avec une toute petite délégation, contrairement aux années précédentes, Elisabeth Noir.
Seuls les maires de Bouloupari, de Koumak et de la Foix ont fait le déplacement, mais Pascal Vittori, Wilfried Weiss et Florence Roland ont profité de cette tribune pour alerter sur les finances des communes calédoniennes et pour demander de nouveau à l'État une aide exceptionnelle pour œuvrer à la reconstruction de l'économie du territoire. Aujourd'hui, la seule entité capable de nous sauver, c'est l'État, déclare Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, qui plaide aussi pour une loi de programmation sur 3 ans pour permettre aux communes de sortir de la crise. En écho, le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, a déclaré que la Nouvelle-Calédonie devait faire l'objet d'une solidarité nationale et que dans ce travail de reconstruction, les communes, qui sont en première ligne, ne devaient pas être oubliées. De son côté, Florence Roland, le maire de la Foix, a regretté qu'il y ait eu beaucoup d'annonces de la part de l'État, mais peu de concrets. Et elle demande notamment le maintien des renforts de forces de l'ordre sur le territoire.
Aujourd'hui, nous allons, enfin je l'espère très rapidement, entamer des discussions, mais nous ne sommes pas dupes. Le territoire tanguera très certainement de nouveau. On nous demandera, nous, maires, d'organiser des élections provinciales. Alors on ne sait même pas si on aura les moyens d'organiser des élections, mais dans quel contexte, en toute sécurité ou pas. On va demander à nos services, parce qu'il y a aussi ça, il y a tous ces agents communaux qui ont travaillé à nos côtés pendant cette période de crise, qu'on va encore mettre sur le front en leur demandant de tenir des missions. Et donc nous avons besoin d'avoir une garantie de l'État que nous serons accompagnés au niveau de la sécurité.
Florence Roland qui arrivait de Guadeloupe où elle a été, rappelons-le, élue présidente de l'ACCDOM, l'Association des collectivités et des communes d'outre-mer.
Et notez ce rendez-vous d'antenne, Cap sur la pêche. C'est un événement organisé samedi prochain par la Chambre de l'agriculture et de la pêche au quai des pêcheries de Nouville. Il est organisé dans le cadre de la Journée mondiale des pêcheurs, artisans et travailleurs de la mer et veut valoriser leur activité professionnelle. Nous en parlerons demain avec notre invité du matin. À 7h30, nous recevrons Benoît Béliaf, élu à la Chambre de l'agriculture en charge de la pêche. L'occasion d'évoquer aussi avec lui la santé de la filière pêche. Et à propos de la Chambre d'agriculture et de la pêche, elle officialisera jeudi l'installation de son centre de formation par alternance sur le site de l'association L'Accueil à Dognan-Beau, un site de 28 hectares qui appartient à la province sud et qui héberge l'association Accueil qui mettra à disposition une partie de ses infrastructures et le terrain nécessaire à l'apprentissage des CAP métiers de l'agriculture et jardiniers paysagistes. Jusqu'à présent, ces filières agricoles étaient accueillies par le CFA de la Chambre des métiers à Nouville, réduit en cendres par les émeutiers.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, après la remobilisation des équipes de Prony Resources, dont une partie a pu reprendre le travail hier, pensez-vous que l'usine du Sud va pouvoir être sauvegardée? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que l'attitude du FLNKS, qui affirme être le seul représentant du peuple kanak et exige d'être partie prenante aux futures négociations, peut retarder la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel. Ils sont 11% à être d'un avis contraire. Justice, en bref, depuis ce matin, une nouvelle affaire est jugée en appel par la cour d'assises. Le 15 mars dernier, l'accusé a été condamné à 15 ans de prison pour viol et violence sur conjoint. L'affaire devrait se poursuivre encore demain. 17h57, première pause dans votre journal Info Soir. Nous reviendrons avec Jean-François Baudin sur le magazine Citoyen de ce midi. Il était consacré à la sécheresse sur le territoire. A tout de suite.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léana Colombo.
Oui, et pas de répit pour les pompiers en cette saison sèche. Tous les jours, les équipes sont mobilisées sur des incendies sur l'ensemble du territoire. Et Jean-François Baudin, nous en avons parlé ce midi dans notre magazine Citoyen.
Oui, avec nos invités, parmi lesquels le capitaine Gwenval Cambon, chef de corps du centre de secours de Païta, qui confirme que les pompiers font face en ce moment à une saison compliquée par la sécheresse intense.
Comme l'ensemble des Calédoniens, on a bien constaté que depuis le début de l'année, on a une année très sèche. Ce qui fait que pour notre corps, pour notre métier, on a une saison estivale, donc une saison des feux qui a commencé plus tôt et de façon beaucoup plus intense. Les missions, les opérations dès le mois de juillet-août ont commencé pour les sapeurs-pompiers du territoire et de nos communes. Et depuis, sans discontinuité, les hommes sont sur le terrain parce que nos corps sont marqués par plusieurs départs de feux par jour. réellement. On en parle de certains qui sont plus médiatisés dans les zones urbaines, mais réellement, le quotidien des sapeurs-pompiers depuis août, c'est des feux tous les jours, tous les jours.
Difficulté supplémentaire, cette période de sécheresse arrive dans la continuité des émeutes du 13 mai. Les pompiers n'ont donc, pour ainsi dire, pas eu de répit. Le capitaine Bruno Chitoussi, chef de corps du centre de secours de Dembéa, constate cette année qu'en plus des écobuages non maîtrisés, se rajoutent désormais des actes malveillants.
On constate vraiment que sur Dembéa, quelquefois le mercredi ou le vendredi ou les week-ends, donc on constate des inflammations spontanées qui sont dues à la malveillance. Ce qui peut aussi arriver, c'est que, enfin, ce qui est aussi peut-être assez fatigant, c'est qu'on éteint et puis une ou deux heures après, on vient rallumer derrière parce que on est dans la mauvaise période. La deuxième particularité de Dembéa, c'est qu'on constate que la zone urbaine brûle plus que la zone rurale. Donc la zone rurale, c'est le nord de la commune, c'est les grandes propriétés foncières. Donc là, les gens font attention. Mais voilà, surtout ce qui est sur le littoral, voilà, on constate malheureusement des négligences et des malveillances.
Les pompiers, avec cette éruption de la malveillance, font face à une fatigue qui fait qu'ils sont très sollicités partout sur le territoire, rappelle le capitaine Maël Carlaguer, chef de corps du centre de secours de la Foix.
Effectivement, une forte sollicitation opérationnelle en ce moment avec de nombreux départs de feu. Je vous rappelle que nous, c'est La Foix, mais c'est aussi Boulou Paris, c'est Farino, c'est Saraméa, c'est Moindou. Le personnel est fortement sollicité. On a enchaîné de grosses interventions, mais quand même, tous les jours, des 2-3 départs qui font qu'on sollicite le personnel, qu'on sollicite le matériel. Après, on a été moins sollicité durant les émeutes, un peu plus sur Boulou Paris, par rapport au reste du secteur, mais pour autant la dernière saison sèche a perduré. On avait eu des gros feux quand même jusqu'en mars-avril sur notre secteur, donc on a une année qui s'enchaîne, qui perdure, et on a du personnel qui reste motivé malgré tout, malgré la fatigue, et on veille à ça pour qu'on puisse durer dans la saison et qu'on n'aille pas à la casse.
En plus de cette lutte contre les incendies, les pompiers doivent faire face à des coupes budgétaires. On note pour les communes une réduction pouvant aller jusqu'à 25% de leur budget de 2024 consacré aux services de secours. Pour le capitaine Cambon, une restructuration est nécessaire pour les années à venir.
Il ne faut pas avoir peur de faire le constat de notre état en termes de sécurité civile et de structuration territoriale en 2024. Jusqu'à présent, l'ensemble des audits depuis ces dernières années vont tous dans le même sens. On manque de structuration territoriale. On manque de moyens humains et matériels d'une manière générale sur l'ensemble du territoire. C'était vrai les années précédentes et ça le sera encore pour les années à venir de par, entre autres, des conditions budgétaires, financières dégradées. De plus, on parle de la sécheresse aujourd'hui. Il faut bien avoir en tête que les périodes de sécheresse sont de pire en pire et on le voit au niveau de l'Europe. Donc déjà une structuration beaucoup plus conséquente que nous entre les départements. Mais maintenant, ils réfléchissent à des mutualisations européennes en matière de moyens aériens, humains, matériels. Et nous, déjà aujourd'hui en Calédonie, on a du mal à faire de la mutualisation au niveau des communes. On est encore sur des régimes communaux alors que les métropolitains sont sur des régimes départementaire. Donc la structuration est importante et elle est indispensable. Il faut vraiment pouvoir aujourd'hui, malgré le contexte qu'on connaît, pouvoir avancer et faire ce qui est indispensable pour la population et pour les services de secours.
Et bien évidemment, cette question de structuration et des moyens et des personnels renvoie au transfert de compétences à la Nouvelle-Calédonie de la sécurité civile il y a 10 ans, a souligné Brice Régent, le directeur du SIVM Sud.
Depuis 2014, la Nouvelle-Calédonie a décidé d'être compétente en matière de sécurité civile, et je laisse les uns et les autres décider si ce transfert a été réussi ou pas. Le fait est qu'aujourd'hui, les communes qui ont à organiser la réponse opérationnelle sont bien seules. L'intercommunalité, c'est la meilleure solution pour agir local. Je ne sais pas si au niveau territorial, on aurait pu faire mieux ou différemment, sachant que la côte Est ne ressemble pas tellement à la côte Ouest et que les communes du nord de la côte Ouest sont bien différentes des communes de l'agglomération. Cette disparité des communes fait qu'il faut, à mon avis, une solution communale ou intercommunale. Par contre, des financements, et pourquoi j'abordais la question du transfert de compétences, c'est que ce transfert de compétences, évidemment, s'est fait sans transfert de moyens. Les alter-ego de nos amis ici autour de la table, que sont les directeurs des SDIS en métropole, c'est géré au niveau départemental, ils récupèrent une partie des taxes sur les produits d'assurance, par exemple. Parce que, évidemment, quand on se fait assurer, c'est qu'il y a un risque. Et qui répond mieux au risque que les pompiers? Personne. Et donc, il y a un système de financement qui coule de source. Ça n'existe pas en Nouvelle-Calédonie.
Et parmi les notes plus positives relevées par les invités de cette émission Citoyen, on retiendra que depuis le 13 mai, les pompiers constatent une augmentation conséquente du bénévolat. À Dembéa, par exemple, un recrutement a été effectué au mois de juillet et pour 20 postes de pompiers volontaires disponibles, 80 dossiers ont été déposés.
Un magazine Citoyen à retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc. L'actualité dans le Pacifique, et c'est une énième période d'instabilité politique qui s'ouvre au Vanuatu. Le président vanuatais vient en effet d'annoncer une nouvelle dissolution du Parlement. Les explications de Jean-Pierre Zajac.
Cette dissolution du Parlement fait suite au dépôt par l'opposition de deux motions de censure séparées. La première visait le chef du gouvernement, Charles Salwai, et la seconde, le président de la République, Nikenike Virumbaravu. La recevabilité de ces deux motions avait été confirmée par le président du Parlement, Saul Siméon, lequel avait estimé dans un communiqué qu'elle satisfaisait aux exigences constitutionnelles. La décision du chef de l'État de dissoudre le Parlement va se traduire par de nouvelles élections législatives. La commission électorale de l'archipel aurait déjà pris des dispositions en ce sens. L'opposition parlementaire, quant à elle, entend se pourvoir en justice pour contester la décision du président Virumbaravu. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Retour sur le territoire et une journée la tête dans les nuages. 29 élèves de l'école Jacques Trouillot à Rivière-Salée se sont rendus aujourd'hui sur la base aérienne de la Tontouta grâce à l'opération Rêve de Gosse organisée par le Rotary Club. Ces enfants ont pu découvrir les différentes unités que compose la base aérienne 186, assister à des démonstrations et même voler dans un avion militaire CASA. Écoutez le colonel Jean Grandpierre, commandant de la base aérienne 186.
Ça faisait partie du projet initial et ça a permis de montrer aux enfants finalement que quand on a un projet, qu'on le mène jusqu'au bout, finalement les rêves peuvent se réaliser.
J'imagine l'émerveillement quand ils sont montés, vous les avez vus ?
Oui, ben c'est un peu d'anxiété au moment de l'embarquement. Le bruit, mais une fois qu'ils sortaient, la joie, le sourire et beaucoup d'excitation suite au vol. Donc ils ont fait un vol d'une trentaine de minutes où ils ont décollé de l'aéroport de la Tontouta, sont allés jusqu'au phare Amédée et au retour, ils ont survolé leur école où leurs camarades avaient fait un cœur au milieu de la cour, donc avant de se reposer sur l'aéroport de la Tontouta.
Après cette première expérience réussie, la base aérienne 186 a déjà donné son accord pour l'organisation d'une deuxième opération Rêve de Gosse et ce sera en 2025. Allez, 18h07, dernière pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et nous partirons du côté de Dumbéa où une fresque a été inaugurée ce matin. À tout de suite.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24h sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27. RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et une fresque haute en couleurs, inaugurée ce matin au lycée Dikikewe de Dumbéa. Fresque réalisée par une artiste calédonienne avec l'aide des élèves du lycée, Kilinda Boakou.
Après la période d'exaction et malgré la disparition du studio 56, la ville de Dumbéa a décidé de maintenir les résidences artistiques qui ont un lien avec le programme d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire. C'est grâce à ce programme que l'artiste Lula Kwako a pu mener à bien son projet avec les trois classes d'art plastique et d'histoire de l'art du lycée du Kikewe, une fresque sur les escaliers du lycée.
Alors c'est une œuvre en mosaïque qui est inspirée des nattes en pandanus par exemple qu'on a en Calédonie, parce que le but du projet était de tisser des liens, de retisser des liens. On a vécu une année qui était difficile, donc le but c'était encore une fois de pouvoir renouer et de mettre de la couleur un peu dans nos vies. Et donc on leur a demandé de noter des mots qui, pour eux, représentent le lien. Certains qui me font rire, comme la salade tahitienne, qui pour beaucoup de Calédoniens est un lien, un vrai lien. Et pour d'autres, on a des définitions de l'amitié, des mots en japonais, en espagnol.
Soa, Bridget, Cassidy sont toutes les trois en classe d'art au lycée du Kikewe et elles n'ont pas hésité à mettre la main à la pâte pour mener à bien ce projet.
Ce qui est bien avec ce projet, c'est qu'on a pu tout expérimenter, comme les marquages, mettre les scotch, peindre. On a aussi aider les autres, donc tenir les pinceaux, les pots, etc. Donc on a pu tout faire et échanger à chaque fois dès qu'on voulait.
J'aime beaucoup les mots qui ont été choisis. L'unité dans la diversité, bah, je trouve que ça représente beaucoup parce que genre, du coup, on est tous différents mais pourtant on est tous reliés.
Bah, j'étais très contente de faire ce projet parce que c'est vrai que ça nous unit tous de faire ce projet. Même ceux qui ne sont pas de notre classe d'art, ils nous ont quand même aidés et ça a été très gentil de leur part aussi.
En parallèle de cette œuvre sur les escaliers du lycée du Kikewe, une seconde œuvre avec le même graphisme a été réalisée au Big Up Spot du parc de Koutiou.
Merci Kelinda Bakou. En bref, le gouvernement communique sur l'ouverture de la campagne des agréments artistiques et culturels 2025 en milieu scolaire et extrascolaire. L'agrément est délivré pour un an et doit donc être renouvelé chaque année. Les dossiers sont à retirer sur le site internet du gouvernement ou directement à la direction de la culture, de la condition féminine et de la citoyenneté dans l'immeuble Gallieni à Nouméa, endroit où devront être déposés ces mêmes dossiers au plus tard le mardi 18 février 2025.
Vous écoutez Info Soir, il est 18h11.
Nouvelle animation à l'aquarium des Lagons. Il s'agit des soirées Ponte du Corail. L'équipe Auréanet IRD sera présente aux trois soirées organisées demain, jeudi et vendredi à l'aquarium des Lagons. En plus de la ponte des coraux, de nombreuses animations seront au programme à partir de 19h. L'occasion de tout savoir sur les acanthastères, les explications de Jazz Barocco, animatrice à l'aquarium des Lagons.
Les coraux, ils pondent quelques nuits après la première pleine lune du mois de novembre. Donc en fait, c'est là, par exemple, on a déjà quelques coraux qui ont commencé à pondre. Donc voilà, c'est les jours où c'est le plus probable qu'ils se mettent à pondre. On peut pas garantir que les coraux vont pondre pendant ces trois jours. On a prévu d'installer une petite télé au cas où, bah voilà, on n'a pas la chance qu'ils pondent, où les gens pourront vraiment observer le phénomène, donc filmer à l'aquarium. Et aussi filmé dans le lagon calédonien. Des fois, ils pondent énormément, donc on a une petite impression de neige. Des fois, c'est souvent ce qu'on peut trouver à la première paire vernie, ça fait une espèce de petit dépôt rose en surface. Soit on va pouvoir observer les petits œufs qui seront en surface, mais voilà, c'est sûr qu'à l'aquarium, on ne pourra pas l'observer en milieu naturel, en mode neige, quoi.
La ponte des coraux, c'est à partir de 19h, demain, jeudi et vendredi, à l'aquarium des Lagons. Réservation obligatoire sur e-ticket.nc. On termine ce journal avec un mot de sport et du football. Le titre du trophée du Grand Nouméa pourrait se jouer ce soir entre Horizon Sport et l'AS Magenta. Les deux équipes sont au coude à coude, à égalité au nombre de points avec 15 victoires, 1 nul et 3 défaites. Mais pour l'instant, c'est Magenta qui est devant grâce à un meilleur goal average. Le match entre Magenta et l'AS Mondor a été reporté, mais Horizon Sport est bien en train de jouer contre le Dumbe AFC depuis 18h au Parc des Sports de Koutiou. Si Dumbe remporte ce match, l'AS Magenta pourrait même devenir champion dès ce soir et nous reviendrons bien entendu sur tous les résultats dans notre prochaine édition. 18h12, petite passe décisive avec vous Nicolas et on voit la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors dites-nous tout Nicolas sur la météo de ce soir et de demain.
Alors, cette nuit, des averses résiduelles intéresseront la pointe nord en soirée. Sur le reste du territoire, la nuit sera bien étoilée. Puis, des passages nuageux aborderont l'île des Pins, Marais et le sud-est en seconde partie de nuit. D'est, sud-est à sud-est, l'Alizée soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et Bélep. Sur l'ouest, il mollira entre 5 et 10 nœuds. Les températures de la nuit seront comprises entre 19 et 23 degrés sur le nord et entre 14 et 18 degrés ailleurs. Demain matin, le soleil dominera largement, notamment sur l'ouest. Ailleurs, quelques nuages circuleront par moment. Le vent d'est à est-sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds, localement entre 15 et 20 nœuds sur la pointe nord. Sur l'ouest, les faibles brises de terre du début de matinée seront rapidement remplacées par des brises de mer entre 10 et 15 nœuds.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition.